logistique, le fait qu'il n'y ait pas de ligne de front. Enfin, l'un des dangers, n'est-ce pas, sur pourquoi on n'est pas très surpris, c'est qu'on ne fait pas face à un seul groupe terroriste. Mais il y a au moins trois groupes terroristes. Il y a ACMI, qui est très ancien, relativement. Il y a le groupe des Amis de l'Islam et autres, avec Iyad Ali. D'autres, c'est Abu Hamam. Et récemment, donc, il y a Daesh. Daesh qui a revendiqué cet attentat.
D'accord. Donc, on peut revenir sur tous ces détails, si vous le permettez, M. Oud Abdallah. Je vais à Paris. Niagale Bakayoko, les chefs d'État du G5 ont réaffirmé sans embâche le rappel à la communauté internationale. Le président Issoufou avait même parlé avant cette rencontre d'une nécessité de traiter la crise sécuritaire dans le Sahel au même titre que l'Afghanistan ou l'Irak. C'est un appel qui a des chances d'être entendu.
Alors en effet, le président Issoufou milite depuis très longtemps pour la mise sur pied d'une coalition internationale qui soit comparable à celle qui a été mise en place au Moyen-Orient. Il milite également pour le renforcement du mandat et le placement sous chapitre 7 de cette force conjointe du G5 Sahel, et également pour que la MINUSMA, donc la mission de l'ONU actuellement au Mali, soit doté d'un mandat beaucoup plus offensif. Est-ce que cela a des chances d'être entendu? La question sera présentée encore au Conseil de sécurité, mais on s'aperçoit effectivement qu'il y a relativement peu de candidats actuellement pour s'engager de manière plus offensive.
Déjà que cette force a des problèmes de financement.
Alors cette force a non seulement des problèmes de financement, puisque un grand nombre de promesses de dons qui avaient été formulées lors de conférences de donateurs ne se sont pas matérialisées, mais cette force a aussi, à mon avis, un problème de mandat, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le CONOPS, le concept d'opération de la force, actuellement l'autorise uniquement à intervenir dans le cadre de patrouilles qui se situent de 50 km de part et d'autre des frontières des 5 pays membres. Aujourd'hui, on voit bien que ça ne permet pas d'avoir une grande mobilité pour faire face à une menace qui est multiforme.
D'accord. Alors, Michael Shulkin, récemment, dans une interview avec des confrères français, vous ne sembliez pas très optimiste concernant la situation dans le Sahel. Pourquoi êtes-vous pessimiste?
Je suis pessimiste parce que, bon, on voit que la violence monte, donc il y a encore de violence, mais aussi on ne voit pas, on a du mal à percevoir des signes d'amélioration des forces de sécurité locales. Il y a aussi le problème que tout le monde parle des vides de gouvernance. Tout le monde est d'accord qu'il faut que les gouvernements locaux fassent un effort plus grand pour gouverner. Mm. Et j'ai du mal à voir discerner des indications qu'on fait ça.
D'accord. Alors, Ahmadou Ould Abdallah, cet appel à la communauté internationale intervient au moment où une bonne partie de l'opinion publique dans cette région ne semble pas apprécier l'action de la France dans le Sahel et ses chefs d'État. Sont-ils entre le marteau et l'enclume ici?
Écoutez, moi je comprends bien le désarroi des chefs d'État de ma région.
Et des populations?
Parce que la guerre dure depuis au moins 2014. Disons, l'intervention française pour aider le Mali a eu lieu en janvier 2013, mais effectivement, les troupes africaines, auxquelles il faut rendre hommage, pas par facilité ni démagogie, elles se sont distinguées pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Mais le contexte est différent. Elles sont sur le front depuis 2013-2014. Il n'y a pas de congé, il n'y a pas de... Ils ont énormément de difficultés. Les gens sont découragés, démoralisés. Est-ce que l'appel va être entendu? Je pense que ça va être très difficile. Il y a eu des troupes en Afghanistan et en Irak. Il y a eu des troupes également en Somalie. Je parle des troupes des Nations Unies sous le leadership américain qui paye 32%. Et parce qu'il faut choisir ou la démagogie ou parler honnêtement à mes frères africains. En Afghanistan, comme en Somalie, c'était sous la direction américaine qui paye 32% du budget du maintien de la paix. Il y avait pour les États-Unis un intérêt vital. Et quand elles ont vu que la paix ne marchait pas, elles se sont retirées de Somalie. Elles se sont retirées d'Irak. Elles sont en négociation pour se retirer d'Afghanistan. Donc, nous du Sahel, qui avons ces bons soldats, qui sont sur la brèche depuis longtemps, dans un territoire immense, sans infrastructure, qui n'ont pas de congés depuis longtemps, qui n'ont pas de primes de guerre, nous devons réfléchir, pas idéologiquement, mais pragmatiquement. Comment faire en sorte qu'il y ait des consensus. Je suis peut-être en avant. Il faut mobiliser le front intérieur de la population.
D'accord, il faut mobiliser l'opinion publique et s'engager ensemble dans cette guerre. D'accord. Niagale, le président Macron veut une clarification venant des chefs d'État de la région sur l'opération Barkhane. Le sommet qui devait se tenir à Pau a d'ailleurs été reporté, mais certains en Afrique n'ont pas aimé le temps. Qu'est-ce qui doit être fait pour vous, pour que tout le monde soit sur la même page?
Alors effectivement, la façon dont le président Macron s'est adressé au chef d'État du G5 a été perçue comme une convocation davantage qu'une invitation à se concerter. Mais aujourd'hui, on voit que tout le monde est en train de faire des efforts pour rapprocher les positions, puisque le président Macron lui-même a manifestement prévu de se rendre au Niger pour se recueillir sur les tombes des soldats. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a vu aussi le communiqué final du G5 Sahel. Je vous parlais du mandat de la force, cette question du CONOPS. Les cinq États ont décidé de revoir ce concept d'opération. C'est un point extrêmement important. Ils ont aussi mis l'accent sur la dimension, non pas seulement militaire, mais sur la dimension criminelle de ce conflit. Parce que la façon dont les groupes armés, les groupes djihadistes, aujourd'hui, perdurent et se développent à avoir aussi beaucoup avec de la criminalité organisée, avec l'exploitation même d'un certain nombre de ressources naturelles ou de ressources du pastoralisme. Donc en effet, toutes ces questions-là doivent être prises en compte et je pense qu'il est bon que chacun ait décidé de réfléchir avant de se retrouver en janvier pour donner un nouvel axe stratégique à l'approche qui doit être menée.
D'accord. Alors, Michael, cette semaine, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Sherrod Norman, a également critiqué, disons, les pays qui sont touchés en disant que ces pays ne font pas assez. Mais les États-Unis semblent plutôt privilégier une coopération directe avec ces pays, n'est-ce pas, plutôt que de passer par le G5. Est-ce qu'on peut parler d'une différence d'approche entre la France et les États-Unis concernant la situation dans le Sahel?
Il n'y a pas de grande différence, sauf que la France s'intéresse beaucoup plus au Sahel que les Américains, qui est normal, enfin ça s'explique facilement. Merci, je crois que c'est pas correct de dire que les États-Unis ne s'intéressent pas à soutenir le G5, parce que même du point de vue financier, les États-Unis le soutiennent.
5 milliards et 2.
Oui, mais je sais que l'administration Trump est un peu méfiant des organisations multilatérales, comme ça, multinationales, et on préfère de travailler d'une façon un peu plus bilatérale.
Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ambassadrice quand elle dit que les pays concernés eux-mêmes ne font pas assez?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec elle. Si on prend le communiqué dont Niagale a évoqué tout à l'heure, le communiqué a dit des choses très bonnes, très correctes, mais il y a une grande différence entre ce qui est dit qu'il faut faire et l'action. C'est ça, c'est l'implémentation des choses qu'on dit qu'il faut faire. Et c'est dans ce domaine-là, je trouve que les chefs d'État, des gouvernements, des pays sahariens, ils ne font pas un effort suffisamment fort.
D'accord. Alors, Ahmedou Ould Abdallah, est-ce que vous voyez une différence d'approche dans la manière de combattre le terrorisme dans le Sahel? Les États-Unis sont présents, mais c'est surtout dans le domaine du renseignement.
Oui, les États-Unis sont présents dans le Sahel depuis 2002, depuis le début du terrorisme. Ils avaient fait une initiative militaire qui a permis de former des troupes de Guinée, mais surtout Mali et Niger, comme Sahel Initiative, qui a été après transformée. Alors, pour des raisons purement, à mon avis, administratives, les États-Unis, je les comprends, ils ont une réserve, disons, des réserves vis-à-vis des institutions. Ils préfèrent aider bilatéralement. Et je ne trouve pas. Mais l'essentiel est que les deux pays, la France et les États-Unis, on a la chance que les armées s'entendent bien. Il y a parfois des problèmes amicaux, des divergences amicales entre le Quai d'Orsay et le State Department. Je n'ai pas la connaissance de cause. Mais les militaires en général s'entendent très bien.
D'accord.
Donc, aujourd'hui est pragmatique. Est-ce qu'il faut aider une institution ou est-ce qu'il faut aider des troupes? Ça, c'est entre.
Et vous, Yagale, c'est un problème d'approche ou de coordination de ce qui se passe dans le Sahel pour vous?
Alors moi je pense que plus largement la question qui se pose est celle de la définition de l'adversaire qu'on a en face. Est-ce que on lutte vraiment uniquement contre le terrorisme et qu'est-ce que ça signifie de lutter contre le terrorisme? Le terrorisme c'est une méthode de recours à la violence extrême et qui en général touche aussi les civils. La question est absolument fondamentale puisqu'on s'aperçoit que la crise à laquelle on a affaire, est en réalité multidimensionnelle et que notamment les groupes armés qui sont en présence, certains en effet font allégeance à Al-Qaïda, d'autres à l'État islamique, mais il est très important de voir que ces groupes sont très ancrés localement, voire ont pour origine certaines communauté. Donc il est très difficile de considérer qu'on lutte contre un ennemi unitaire. Donc moi, en effet, je pense que cette question d'approche, elle est absolument fondamentale, mais au niveau stratégique. Redéfinir ce vers quoi, ce contre quoi et contre qui on lutte.
Et justement, avant d'aller aux réactions de nos téléspectateurs sur Facebook, Michael, justement, en parlant d'approche, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies a évoqué également la question du développement qui est tout aussi importante.
Oui, c'est très important. Donc il y a dans le côté sécuritaire, mais aussi le développement et c'est la gouvernance. Et sans s'adresser à la gouvernance ou au développement, je crois qu'on n'aura aucun succès du point de vue militaire. Mm-hmm. Au cause du fait que, comme Niagale a dit, ce n'est pas une interaction avec un groupement, avec des motivations très stables, ce sont plutôt un complexe d'interactions de groupements qui ont pris des armes pour des motivations très, très complexes. D'accord. Sur des conflits locaux.
D'accord. Alors, je vous le disais tantôt, nos téléspectateurs ont été très nombreux à réagir sur Facebook. Je commence par Emmanuel Kayanda à Lubumbashi qui estime que pour mettre fin à ce phénomène, les pays africains doivent s'unir en impliquant toute la population avec un système d'information efficace. Il faut régler la question de la pauvreté et la répartition inégale des richesses à la communauté internationale de s'attaquer à ceux qui financent et octroient des armes à ces groupes armés. Alpha Yoguba à Conakry nous dit qu'il faut que les dirigeants acceptent de s'asseoir avec les représentants des groupes armés pour discuter. Certains pays européens négocient avec les terroristes, pourquoi pas nous ? Alphonse Mbouaki à Kinshasa a écrit « Nos armées doivent compter d'abord sur elles-mêmes. C'est le cas de l'armée camerounaise qui traque elle-même les djihadistes et les forces extérieures ne viendront qu'en appui. » Voilà juste quelques-unes de ces réactions Facebook. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Le Washington Forum revient après une courte pause. heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Abdourahman Dia, à la présentation. Je rappelle nos invités à Nouakchott, Ahmedou Ould Abdallah, directeur du Centre pour la stratégie et la sécurité dans le Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU. Niagale Bakayoko à Paris, elle est présidente de l'African Security Sector Network, et avec moi ici à Washington, le politologue Michael Shurkin. Alors, tout comme au Burkina Faso et au Mali, plutôt au Niger, au Mali également, l'armée a payé un lourd tribut et les attaques ciblent aussi bien les civils que les militaires. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, a demandé à quelques Bamakois leur avis sur les dernières conclusions du sommet du G5 Sahel.
Le G5 Sahel ne fonctionnera pas. Et nous sommes très heureux de constater que les Américains ont tout le temps indiqué que c'était une force de trop, que c'était une force qui n'était pas, dont la vision n'est pas claire, dont la mise en place n'est pas claire. Et au regard du fait que les armées de la sous-région, les armées des pays qui constituent le G5 Sahel, n'ont pas encore atteint le niveau où ils peuvent coopérer comme l'OTAN, comme d'autres armées.
G5 Sahel, je pense que ça peut faire beaucoup de choses si et même acceptent d'aller ensemble les pays, les cinq pays. Mais il ne faut pas compter sur les efforts des autres continents pour nous aider. Je pense que le Mali peut financer, quand on divise les pourcentages, chaque pays peut financer leur armée.
Je ne vois aucun effort du G5 Sahel. Tout ce que je constate, nos soldats sont tués à longueur de journée.
Aujourd'hui, nous ne pouvons pas compter sur d'autres pays pour nous financer. Les peu de matériel que nous avons, il faut que ces chefs d'État comprennent qu'on doit faire la mutualisation et gérer la chose, surtout avoir des banques de données concernant ce qu'on appelle la communication, et que les informations circulent et que les moyens aériens que nous avons et les moyens matériels que nous avons qu'on mutualise une fois qu'il y a des attaques sur le Mali et que le Niger ou d'autres pays se préparent en conséquence. Si on arrive à faire la jonction, nous arrivons à éliminer tous les terroristes, nous arrivons à éliminer tous ceux qui sont contre les antinationales et ces apatrides, et nous irons le pays avec responsabilité.
Alors, réaction recueillie à Bamako. Alors, Ould Abdallah, quand on a Barkhane, les forces spéciales américaines, la force du G5 Sahel et les armées de chacun de ces pays, tout ce beau monde sur place sans voir une baisse des attaques, est-ce qu'on ne peut pas, dans une certaine mesure, comprendre la frustration de ces populations?
Tout à fait. Mais je voudrais juste faire une observation. On parle souvent de lier la lutte contre le terrorisme tout en faisant la promotion du développement. J'ai été sur le terrain comme représentant spécial du secrétaire général dans plusieurs pays. On ne peut pas faire le développement quand il y a le terrorisme, parce qu'ils détruisent les investissements et les jeunes, soit les privés, soit les ONG, ne peuvent pas aller sur le terrain. J'ai vu le massacre de Français dans l'ouest du Côte d'Ivoire pendant la guerre civile. Donc, il faut être très, très modeste en disant qu'on se bat et on développe en même temps. Ceci étant, je comprends parfaitement la frustration des jeunes Maliens, Burkinabés, Nigériens et d'autres. Et comme je l'ai dit parfois sur vos antennes ou sur vos écrans, l'une des priorités pour lutter contre le terrorisme, c'est de renforcer les fronts intérieurs de nos pays, qu'on ouvre les gouvernements aux oppositions, aux hommes d'affaires et à la société civile. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être ministre, loin de là, mais qu'il y ait un consensus,
d'accord,
qu'il y ait une entente nationale. Et à partir de là, on renforce l'armée et on pense l'économie. Et il faut cesser d'être dogmatique. C'est le dogmatisme qui favorise le terrorisme.
Malheureusement, on est un peu coincé par le temps. Niagale, la bataille de l'opinion est tout aussi importante, non? Si les populations doutent des intentions des uns et des autres, c'est un problème. Comment est-ce que ces États concernés, les partenaires extérieurs, doivent s'y prendre?
Alors, je pense qu'il y a besoin de distinguer deux types de mouvements d'opinion. Certains qui sont orchestrés sur les réseaux sociaux, voire dans les manifestations de rue, mais d'autres qui sont, à mon avis, d'une autre nature, beaucoup plus profonde, et qui remettent en cause, en réalité, la pertinence de l'État postcolonial, c'est-à-dire sa capacité en matière démocratique, en matière de décentralisation, en matière d'urbanisation et en matière de développement, parce que le développement aussi, il y a besoin de le questionner. Un certain nombre de problèmes que l'on rencontre aujourd'hui sont dus, par exemple, à des politiques agricoles qui ont marginalisé le pastoralisme. Donc là aussi, le développement, ne soyons pas trop simplistes, ne disons pas développement pour remplacer la sécurité ou pour la compléter, mais réfléchissons également au type de modèle de développement qui est proposé aux populations.
Donc vous estimez qu'il y a des critiques qui sont légitimes et d'autres peut-être qui sont un peu de la manipulation?
Ce n'est pas à moi de dire si les critiques sont légitimes ou pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut se garder de considérer que ces mouvements d'opinion assez virulents que l'on constate sont uniquement manipulés. Je pense qu'il y a un doute, voire une colère au niveau plus local, au niveau plus profond, dans les zones périphériques, dans les zones rurales, ce qui peut expliquer aussi non pas l'indulgence ni l'indifférence, parce que ces populations subissent aussi la violence de ces groupes, mais d'accord, en tout cas, le fait qu'elles ont du mal à se référer à un modèle d'État dans lequel elles pourraient avoir confiance.
D'accord. Michael Shulkin, le G5, estime que le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies doit être déclenché pour mobiliser davantage la communauté internationale. Est-ce que finalement ce sont ce genre d'actions d'envergure qui peuvent rassurer les populations?
Oui, ça peut être sûrement, parce que ça veut dire qu'il y aura peut-être plus de ressources, mais il faut, ce qui serait plus important, c'est pour les G5 et tous les pays de la région d'agir. Ce sont les faits. Il faut agir d'une manière que la population puisse voir que ah, le G5 fait quelque chose. Mon État, mon gouvernement,
exactement,
c'est ça. Donc encore de l'argent, de mettre encore de l'argent dans la bourse de G5. En tant que, en soi, ça ne fait pas grand-chose.
D'accord. Oud Abdallah, en moins d'une minute. Alors, peut-être quoi qu'il arrive, en tout cas, et les armées nationales sont un peu le dernier ressort, n'est-ce pas? On est à une minute de la fin de l'émission.
Les armées nationales sont bonnes. Il faut, ce n'est pas tard, que les aider à être plus motivés, organiser les congés, les promotions selon des mérites, et que les chefs, parfois, comme au Niger, soient sur le terrain. Au Niger, ce qui est très important, le colonel, c'est pas important qu'il soit mort, mais il était avec ses hommes. Et c'est ça qui va motiver les soldats.
La motivation. La motivation est importante. Oui. D'accord.
Parfaitement.
Et vous, Niagale, en 10 secondes?
Alors attention, il n'y a pas que les militaires, il n'y a pas que les armées, les forces de police, les forces de justice sont extrêmement importantes aussi pour lutter contre les réseaux criminels dont je parlais. Attention, les armées, pour les rendre performantes et les motiver, comme le dit M. Oud Abdallah, bien sûr, il faut travailler sur leur opérationnalité, mais il faut travailler sur leur gouvernance, sur la façon dont elles respectent, d'accord, les droits de l'homme, et également sur la condition militaire des soldats.
Voilà, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Et je remercie toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir. We'll be right back.